je vois qu'il est 1h30. J'ai changé mon horaire parce qu'il y a 7 heures de différence avec la France, mais il y a un problème. Je vais garder ma montre, hein. C'est moi qui ai l'heure canadienne, hein. Québécoise. Alors, je suis très heureux d'être avec vous pour cette soirée. Et je remercie le Seigneur d'avoir permis qu'il en soit ainsi. Vous savez que cette réunion de ce soir s'ajoute à un programme qui était déjà normalement complet. Et quand il m'a été demandé si j'acceptais d'ajouter une soirée, je l'ai fait en tremblant parce que je suis arrivé hier soir. Et comme je viens de le dire, je dors à moitié, puisqu'il y a 7 heures de décalage avec la France. Mais j'ai pu faire la sieste cet après-midi, alors ça va mieux ce soir. J'étais intrigué ces dernières années par le nom de votre ville ici, Grand-Mère. Ça me faisait quelque peu réfléchir. Je suis un ami d'Alain Choiquier, nous avons travaillé ensemble dans la même équipe et je voyais parfois dans son programme Grand-Mère. Alors je suis très reconnaissant de découvrir à mon tour quelque chose de Grand-Mère avec vous. Alors nous allons ouvrir nos Bibles ensemble pour lire ce soir plusieurs passages. Le premier dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Et pendant que vous cherchez Deutéronome chapitre 8, je précise pour notre journée de réflexion biblique demain que le thème général est effectivement la consécration, mais que nous allons d'une manière plus particulière demain nous pencher sur la vie d'un homme de Dieu très très peu connu par les croyants, au point qu'on le confond, je le dirai demain, avec d'autres personnages. Il s'agit de Barnabas. J'ai écrit un livre l'an dernier sur ce personnage biblique méconnu, et nous allons donc demain, pendant toute la journée, découvrir ce personnage qui a beaucoup, beaucoup à nous enseigner sur la vie de disciples pratiques dans l'Église. Voilà, je tenais à le préciser simplement au passage. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 8 les 5 premiers versets. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, Évangile selon Jean, chapitre 12. Nous lisons les versets 23 à 26. Jean 12, 23 à 26. C'est une réponse de Jésus à la demande, à la sollicitation de quelques Grecs qui veulent voir Jésus. Et Jésus leur répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et enfin, dernier texte, dans l'épître de Jacques, les versets 2 à 4 du chapitre 1er, Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que le test de votre foi produit la constance, la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, mûrs, adultes, sans faillir en rien. Je ne sais si certains d'entre vous ont une expérience personnelle dans le domaine des diamants. Les diamants. Je ne suis pas de ceux-là. Ce n'est pas un domaine dans lequel je suis connaisseur. Et pourtant, sur l'une des couvertures d'un de mes livres, Fidèle quoi qu'il en coûte, vous aurez remarqué la présence d'un diamant. Celui qui a été le concepteur, qui a fait cette couverture, a tenu compte du contenu de ce livre et a donc placé un diamant dans la présentation du livre sur la couverture. Pourquoi cela? À cause d'une épreuve qui permet de faire la différence entre un faux diamant et un vrai diamant. Si un jour l'époux offre à l'épouse un diamant et que l'épouse n'est pas certaine de la valeur du diamant, il paraît qu'il y a un moyen assez sûr de distinguer un vrai diamant d'un faux. Les spécialistes disent qu'il suffit de mettre ce diamant sous l'eau. Et sous l'eau, le faux diamant cesse de briller, alors que le vrai diamant continue à scintiller. L'épreuve de l'eau. Une mise à l'épreuve. Pour connaître l'authenticité du diamant.
qu'est-ce qu'un diamant?
Alors, il y a diverses définitions. Il en est une qui m'a parlé, qui figure dans ce livre. Un diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Et c'est vrai, c'est du carbone qui a subi des pressions terribles qui l'ont transformé donc en diamant. Pourquoi est-ce que je commence notre étude de ce soir par là? C'est pour souligner deux fonctions des situations difficiles, des circonstances difficiles que nous pouvons connaître dans notre vie. Des épreuves, des tests que nous pouvons connaître dans notre vie. L'épreuve est une preuve de l'authenticité de notre vie chrétienne. Par l'épreuve, nous donnons des preuves. Et ensuite, l'épreuve est une école d'authenticité de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous prolongerons certainement cette étude par un complément dimanche soir. Mais j'aimerais surtout ce soir m'arrêter sur cette école vers la maturité chrétienne qui se compose d'heures difficiles, d'heures éprouvantes. Le caractère pédagogique de toutes les circonstances difficiles que nous pouvons connaître, et je suis persuadé que certains d'entre nous, peut-être même aujourd'hui, sont passés par des situations désagréables qu'ils n'ont pas choisies. Elles se sont présentées simplement à eux sur le chemin de la vie. Comment ont-ils fait face à ces difficultés? Quelqu'un a écrit ceci: j'ai parcouru 1000 aux côtés du plaisir. Qu'il était donc bavard, il babillait sans cesse. Mais il ne m'est resté ni savoir ni sagesse de tous les beaux discours dont il crut m'éblouir. J'ai parcouru 1000 aux côtés du chagrin. Tout le long de la route, il resta bouche close. Cependant, oh combien il m'enseigna de choses, tandis que nous étions tous les deux en chemin. La Bible nous le dit, il n'y a pas de vraie croissance sans situation de souffrance. Et nous voulons donc nous pencher sur le caractère pédagogique de nos circonstances difficiles. Et surtout, ce soir, évoquer une question importante et qui trouble beaucoup de disciples de Jésus-Christ et qui n'est pas toujours traitée convenablement dans notre littérature évangélique, à savoir, Dieu et Satan dans le domaine de la souffrance. La place de Dieu et de Satan dans le domaine de la souffrance. Quelqu'un a fait remarquer, très justement d'ailleurs, à partir de l'instant de votre conversion, le diable vous inscrit dans son carnet d'adresse. Et je pense que vous êtes d'accord avec cette remarque préliminaire. Alors, quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route? Toutes les circonstances, toutes les situations, toutes les souffrances qui tissent la vie du croyant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réponse se trouve dans un tout petit mot, un petit mot du texte grec du Nouveau Testament, qui a cette particularité de pouvoir être traduit dans nos Bibles en langue française par deux mots différents. Petit mot grec dont les deux significations possibles représentent tous les deux une dimension de souffrance. Alors, on va faire une leçon de choses. Ce soir, je vais extraire de mon porte-monnaie une pièce de monnaie. Je n'ai pas de monnaie canadienne, mais je vais prendre une pièce, une grande pièce de 5 francs français. Vous la voyez ? Nous allons donner à cette pièce un nom. Nous allons appeler ce soir cette pièce souffrance. Sous toutes ses formes, toutes les circonstances de la vie qui nous apparaissent difficiles. Souffrance. Cette pièce a un côté pile et un côté face. Nous allons considérer que chacun des deux côtés de cette pièce correspond à une des deux définitions de ce petit mot grec dont nous allons parler maintenant. D'un côté, vous avez le mot tentation. De l'autre côté, vous avez le mot épreuve. Hein? Tentation d'un côté, épreuve de l'autre. La totalité de la pièce représente la souffrance. Alors, dans Jacques 1, verset 2, il nous a dit, frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le mot épreuve est là, c'est notre mot grec qui a été traduit en français par épreuve. Au verset 3, c'est un autre mot, hein, sachant que l'épreuve de votre foi, c'est un tout autre mot qui signifie le test, le passage d'un examen, si vous voulez. Mais ce mot épreuve du verset 2 revient au verset 12. Heureux l'homme qui supporte ou qui endure patiemment la tentation. C'est le même mot grec, mais vous remarquez qu'ici, dans le verset 12, il n'est pas traduit par épreuve, mais par tentation. Le même mot au verset 2 était rendu par épreuve, au verset 12 est rendu par tentation. Car après avoir été testé, après avoir été éprouvé, mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, c'est encore le même mot grec qui est rendu par le mot tentation, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, je résume, la souffrance est représentée par cette pièce de monnaie, le côté pile représente l'épreuve, le côté face représente la tentation. Même mot dans le texte original. Et vous allez voir que c'est très intéressant ce que nous voyons en ce moment. Le texte biblique de Jacques 1, verset 12, nous dit d'abord une chose très importante, c'est que Dieu ne tente jamais. Dieu ne tente jamais. Et nous avons lu les versets 12 à 15 pour nous apercevoir qu'il y a conception, verset 15, enfantement, et ensuite les conséquences de cet enfantement qui aboutissent à la mort. Pour qu'il y ait conception, il faut qu'il y ait mariage, à quelque part. Il faut qu'il y ait union. Or, on ne voit pas un des éléments, des deux éléments qui permet la conception. Et puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, mais elle a conçu où ? Il y a bien quelqu'un d'autre qui est à l'œuvre là pour que cette conception ait lieu, et nous savons par d'autres textes des Écritures que c'est Satan qui permet la conception du péché, qui est à l'origine de la tentation. C'est lui
qui utilise nos convoitises, c'est-à-dire nos désirs coupables, les désirs de la chair, pour nous amorcer et pour nous conduire à la mort. Le but de Satan est méchant. Satan vise la destruction, il vise la mort, il vise la chute, il vise l'enfer. Et nous savons donc que tenter, c'est mettre à l'épreuve, mais c'est mettre à l'épreuve de manière négative. Quelqu'un nous veut du mal, il nous veut du mal et il met notre force morale à l'épreuve dans le but de nous faire succomber. La tentation est donc une séduction, une sollicitation au mal, elle a une dimension négative. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu éprouve. Dieu ne tente personne, mais Dieu éprouve. Genèse chapitre 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et nous savons que c'était l'épreuve suprême de la foi, avec la nécessité d'offrir Isaac, le fils unique, le fils de la promesse. Dieu éprouve, mais quand Dieu éprouve, il met à l'épreuve pour amener son enfant à un choix qu'il désire positif. Dieu veut faire du bien, Dieu veut construire, Dieu veut purifier, Dieu veut bénir par des situations difficiles. Dieu vise le ciel parce qu'il nous aime. Et c'est ce qui est sous-entendu dans les versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne nous fait pas de cadeaux empoisonnés. Alors d'un côté, Dieu ne tente jamais. La tentation est le fait de la puissance des ténèbres. Elle est négative. Elle vise à nous faire tomber. D'un autre côté, Dieu, lui, nous met à l'épreuve. Il vise le ciel. Il veut construire notre vie, y compris par des situations de dépouillement. Et je pense que vous pouvez comprendre là pourquoi le même mot grec dans le Nouveau Testament a ces deux dimensions. Tentation d'un côté, épreuve de l'autre. Tout simplement parce que chaque épreuve a une dimension de tentation. Quand Dieu met à l'épreuve, un autre se précipite immédiatement de manière à transformer l'épreuve en tentation. Il va essayer de nous déstabiliser. Il va essayer d'utiliser l'épreuve pour nous détruire. Et d'un autre côté, chaque fois que Satan nous tente, un autre est à l'œuvre pour essayer de construire, qui lui vise le ciel. Dieu se sert de la tentation pour nous faire grandir là où le diable se sert de l'épreuve pour essayer de nous détruire. Chaque épreuve a une dimension de tentation, chaque tentation a une dimension d'épreuve. Et c'est ce qui fait que dans les Écritures, le même mot est à l'origine des deux dimensions de souffrance. Et la question qui se pose et qui est très importante, et c'est là que nous voulons en venir, qui est celui qui possède la pièce? J'ai sorti cette pièce d'un porte-monnaie, c'était le mien. Et la question importante est de savoir dans quel porte-monnaie se trouve la pièce. Est-ce que la pièce se trouve dans le porte-monnaie de Dieu? Ou est-ce que la pièce tout entière se trouve dans le porte-monnaie de Satan? Alors, ce qui est intéressant, et vous le savez certainement, c'est que la pièce se trouve dans le porte-monnaie de Dieu. C'est Dieu qui contrôle l'épreuve comme la tentation. C'est Dieu qui éprouve et c'est Dieu qui permet la tentation qu'il contrôle parfaitement. Voilà sur le plan de la doctrine. Nous allons voir l'application de cette doctrine dans les Écritures, au travers d'un résumé d'une histoire bien connue, et nous allons tout à l'heure terminer notre réflexion par une application dans nos vies personnelles. Nous avons vu jusqu'à présent épreuve, tentation dans le domaine de la souffrance, le même petit mot, deux significations, mais Dieu qui domine souverainement l'ensemble du problème de la souffrance. Essayons maintenant de voir dans les Écritures un exemple, et l'exemple je le tirerai d'une douzaine de chapitres du premier livre de Samuel, ce que l'on pourrait appeler la guerre des deux trônes, que nous trouvons dans 1 Samuel à partir du chapitre 18 et jusqu'au chapitre 30. Nous n'allons pas lire, bien sûr, ces chapitres, mais j'aimerais brièvement les résumer. 1 Samuel 18 à 30, ce que j'appelle la guerre des deux trônes. Dans ces chapitres 18 à 30, nous trouvons la mention directe ou indirecte d'environ une dizaine de tentatives d'assassinat. Moment très difficile pour David entre l'âge de 18 et 30 ans à peu près. Pendant cette bonne dizaine d'années, il va y avoir une lutte terrible du roi selon la chair, le roi Saül, du roi selon le cœur des hommes, du roi déchu, contre le roi selon le cœur de Dieu, qui n'est pas encore roi. Il est roi en puissance, il a été oint, il ne peut pas encore régner, il n'a pas encore la maturité pour pouvoir régner, mais il est vraiment le roi selon le cœur de Dieu. Et dans cette douzaine de chapitres, vous avez une lutte terrible que nous pourrions expliquer dans les termes du Nouveau Testament comme la lutte de la chair contre l'esprit. La lutte de Saül, le charnel, qui lutte à mort contre tout ce qui est spirituel en David. Et c'est une lutte qui est de plus en plus douloureuse, de plus en plus forte, de plus en plus intense. Si vous allez par exemple dans 1 Samuel chapitre 18, au verset 8 et suivant, 8 à 15 par exemple, Saül fut très irrité, cela lui déplut et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit saisit Saül, il y a là une menace de mort, au verset 11, je frapperai David contre la paroi. Verset 12, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne, il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Voyez, la guerre des deux trônes, cette opposition du roi selon le cœur de Dieu et du roi selon le cœur de l'homme. C'est Romains 8, 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ou encore Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors la grande question qui se pose, quand on lit 1 Samuel 18 à 30, c'est celle-ci, qui se cache derrière Saül. Et je me souviens, pendant toute une partie de ma vie de disciple de Christ, ma réponse rapide était celle-ci, mais c'est le diable. Bien entendu, c'est Satan. Et il est vrai que Satan se cache dans cette situation derrière Saül. Le diable veut essayer d'éliminer David ou de lui faire faire une faute qui va le disqualifier à jamais. Il sait, le diable, que David fait partie de cette lignée élue qui conduit à la personne de Jésus-Christ. Il sait que Jésus-Christ s'appellera le Fils et le Seigneur de David. Nous connaissons ces textes du Nouveau Testament. Et on peut comprendre que l'ennemi s'acharne sur David parce qu'il est un maillon tout à fait particulier, stratégique, de la chaîne, de la lignée qui conduit à Jésus-Christ. Puis il est arrivé un jour où j'ai commencé à comprendre que mon regard n'allait pas assez loin et que j'avais tort de ne voir derrière le roi Saül que la puissance des ténèbres. Il est arrivé un moment où j'ai compris qu'en réalité, derrière la haine de Saül, derrière les attaques de Saül, se cachait certes Satan, mais qu'en réalité c'était Dieu qui était derrière. Et que Saül, en réalité, est l'instrument de Dieu. Non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair chez David et pour former peu à peu en David, en quelque sorte, bien sûr dans les dimensions de l'ancienne alliance, pour former en David l'homme spirituel. Comme si Dieu nous disait, eh bien, puisque Saül n'a pas pu servir librement, avec joie, pour l'accomplissement du plan de Dieu, il a servi quand même, malgré lui, à l'accomplissement de ce plan, même dans sa déchéance progressive. Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, Dieu s'est servi de Saül, le charnel, pour combattre un certain Saül qui était tapis au fond du cœur de David. Parce qu'il y a un Saül qui se cache au fond de chacun de nos cœurs. Et Dieu travaille pour, en quelque sorte, s'attaquer à ce Saül qui est caché au fond de chacun de nos cœurs. Alors vous me direz, mais frère, quelle preuve donnez-vous de votre argumentation? Alors nous allons voir les preuves qui sont dans les textes bibliques de mon argumentation. Prenez 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous avons dans les 13 premiers versets d'1 Samuel 16 le rejet de Saül par l'Éternel et le choix de Dieu qui s'oriente vers David pour succéder à Saül dans la royauté. Et déjà, au verset 13, il nous est dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit donc David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de Satan. C'est bien ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la même Bible que moi? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de? Venant de l'Éternel. Moi, je pense qu'il y a là une erreur d'un copiste. Ceux qui copiaient. Et je pense que le copiste qui a écrit ça devait être amoureux, il devait penser à quelqu'un qu'il allait épouser, et sa pensée est mal partie, et il a fait une erreur, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que ce soit comme ça, non? un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça ne vous pose pas un problème? Je ne sais pas combien de personnes sont venues me voir en me disant, écoutez frère, ça fait 30 ans que je cherche la solution à ce problème. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est tellement problématique que Dieu a dit, eh bien, je vais me répéter. Vous savez, quand Dieu veut que nous comprenions bien quelque chose qui est difficile à comprendre, il s'arrange pour que ce soit répété. Hein? Et verset 15, il est dit, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu d'agir. Alors là, on se dit, oh, ça ne peut plus être une erreur de copie, c'est déjà la deuxième fois. Hein? Mais quand quelque chose est d'une importance capitale, quand Dieu veut que nous acceptions une vérité difficile à concevoir, il se répète même trois fois s'il le faut. Et vous remarquez, verset 16, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, vous remarquez l'insistance? Trois fois de suite! Ça nous reste tellement ici en travers, hein, que Dieu éprouve le besoin de répéter. Et vous savez, dans le style de la langue hébraïque, dans l'hébreu, quand une vérité est répétée trois fois dans les mêmes versets, c'est ce qu'on appelle un superlatif absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas insister davantage que cela dans la manière de parler chez les Hébreux. Saint, saint, saint et l'Éternel, ça c'est le sommet de la sainteté. C'est la perfection ultime de la sainteté. Quand un Hébreu veut parler de la sainteté à son sommet, il le dit trois fois. Quand Jérémie voulait dire que le temple de l'Éternel allait être détruit et que Jérusalem avait, les Juifs avaient tort de se confier dans le temple de l'Éternel et d'en faire une sorte de temple fétif dans lequel on enferme Dieu, Jérémie allait à l'entrée du temple de l'Éternel et il disait, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. C'est ce que vous dites. Il disait trois fois. Et les Juifs prêtaient l'oreille parce qu'ils savaient qu'il avait un message tout à fait particulier à apporter. Quand Jérémie voulait dire que Jérusalem allait être détruite, que c'était vraiment un châtiment de la part de Dieu, Jérémie disait, Jérusalem, une ruine, une ruine, une ruine. Trois fois, et ça voulait tout dire. Alors quand ici il est question trois fois de cette expression, un mauvais esprit venant de Dieu, cela veut dire quelque chose d'important. Et c'est d'autant plus important que si vous allez à la fin du chapitre, au verset 23, il est dit, lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. C'est la quatrième fois. Au chapitre 18 et au verset 10, le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Ça, c'est la cinquième fois. Et si vous allez au chapitre 19 et au verset 9, alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. Six fois. Deux fois trois. C'est-à-dire que... Hein, Dieu fait le maximum, hein, deux fois trois, c'est-à-dire un double superlatif. Comme si Dieu voulait dire, écoutez, c'est un message difficile à entendre, c'est un message difficile à accepter, c'est un message humainement incompréhensible, mais je veux que vous sachiez qu'il y a un message solennel et particulier pour vous, mes enfants. Il y a effectivement dans la vie de Saül un mauvais esprit venant de moi. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à comprendre que nous le pensons. Tout simplement, il s'agit d'un fait qui est reconnu dans les Écritures, à savoir que Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans l'autorisation de Dieu. Et que nous sommes ici dans une situation très simple, c'est que ce mauvais esprit était autorisé directement par Dieu à s'emparer de Saül comme jugement. Et nous avons quantité d'autres exemples de ce genre dans les Écritures. Nous allons faire un seul petit exercice dans 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1er. 1 Chronique 21, verset 1er. L'introduction de ce chapitre, qui traite donc d'un dénombrement dont David va être coupable. 1 Chronique 21, verset 1er. Alors, faisons bien attention dans notre lecture aux mots utilisés. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Retenons bien les mots, gardons éventuellement un doigt à cet endroit. Et nous allons chercher simplement le texte parallèle de 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, verset 1er, 2 Samuel 24, verset 1er. Il s'agit du même récit, du même événement. 2 Samuel 24, verset 1er. Qui est introduit par un verset du même genre. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Vous remarquez dans le premier texte que nous avons lu, qu'il est dit que Satan se lève contre Israël et excite David. Dans le deuxième texte relatif au même événement, c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme et il excite David. Apparente contradiction.
Laissez aller la cassette jusqu'au bout avant de tourner la cassette. Thank you. écouter la suite de ce message. Tournez la cassette.
D'un côté, Dieu excite pour le même événement. De l'autre, Satan excite. Et là, nous avons simplement deux textes complémentaires, n'est-ce pas? Dans le premier, nous avons l'intermédiaire, c'est-à-dire la puissance des ténèbres qui excite. Dans le deuxième, nous avons le Dieu souverain qui se sert de la puissance des ténèbres pour exciter. Un texte indique l'intermédiaire, l'autre indique celui qui est à l'origine première de l'ordre. Nous avons un livre de la Bible qui est introduit par cette dimension-là, c'est le livre de Job, n'est-ce pas? Où la puissance des ténèbres est à l'œuvre, va s'attaquer à la personne de Job après avoir touché à sa famille, mais nous savons par les deux premiers chapitres du livre de Job que derrière la puissance des ténèbres se cache Dieu lui-même qui donne son autorisation et qui fixe même les limites très claires de l'action de la puissance des ténèbres. Tu ne pourras pas aller plus loin que cela. Et nous avons ainsi quantité d'autres textes dans les Écritures qui vont dans cette direction. Alors, ceci nous amène à une conclusion à cette partie qui est celle-ci. C'est donc avec la permission de Dieu et sous son contrôle constant qu'un mauvais esprit s'est dressé par Saül contre David pour former David en vue du règne. Dieu se sert de la puissance des ténèbres qui agit en et par Saül pour former le plus grand roi d'Israël. Nous nous comprenons, hein? Dans sa souveraineté, Dieu contrôle la puissance des ténèbres à l'œuvre au travers d'un individu et se sert de cet individu pour former un homme de Dieu qui va devenir le plus grand roi d'Israël. Et à l'heure prévue par Dieu, quand la formation de base du grand roi David est terminée, lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans, eh bien Saül meurt. À l'heure de Dieu, dans le plan de Dieu, quand cette formation de base est terminée, Dieu décrète la mort de Saül. Alors maintenant, il nous reste à actualiser. Nous avons fait un tout petit cours de doctrine au début. La place de Satan et de Dieu dans le programme de la souffrance, dans ces deux expressions, l'épreuve et la tentation. Un seul petit mot grec. Ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie ce soir, nous avons essayé d'appliquer ce texte à une situation biblique, à la situation de David dans sa relation avec Saül et la puissance des ténèbres. Troisièmement, et c'est là que nous voulions en venir ce soir, parce que c'est toujours cela le but des Écritures, comment actualiser, comment appliquer cela à nos vies aujourd'hui? Et c'est là que ça devient très intéressant. Réfléchissons. Dieu s'est servi de quelqu'un que nous appellerions aujourd'hui un lunatique. Saül était un lunatique lié par un esprit malin, impulsif, terriblement instable, versatile, un homme rongé d'orgueil, en termes psychiatriques, un mélancolique coléreux au niveau du tempérament. Il fait même ce qu'on appelle les symptômes d'une psychose maniaque dépressive. Vous voyez que ça va loin? J'ai sous les yeux le verdict d'un autre docteur en psychiatrie, disant ceci: Saül, avec ses comportements bizarres, ses attitudes extrêmes, fut probablement frappé de folie dépressive. L'hallucination qui le poursuivait lorsqu'il croyait que David complotait contre lui relève de la paranoïa, une paranoïa dépressive qui conduit au désespoir et au suicide. Avec cette seule différence, et là je ne suis plus d'accord avec ce psychiatre qui a écrit un livre évangélique, mais je ne suis pas d'accord, parce qu'il va plus loin en disant, mais de toute façon, vous savez, cette manière de dire « mauvais esprit venant de l'Éternel » vient de ce qu'à cette époque, on ne connaissait pas tous les mécanismes des maladies mentales, on n'aurait pas du tout dit comme ça aujourd'hui. Ça, je ne le crois pas. Il y a ici, dans l'histoire de Saül, véritablement des phénomènes qui sont liés à l'action d'un mauvais esprit venant de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Et si c'était simplement un problème d'ordre psychologique, ce ne serait pas indiqué de cette manière dans les Écritures. Donc nous ne devons pas faire de la Bible un livre d'un Dieu menteur. S'il nous est dit qu'il s'agit d'un mauvais esprit venant de Dieu, nous acceptons, c'est un mauvais esprit venant de Dieu. Simplement, ça se traduit par un dérangement mental que l'on connaît aujourd'hui aussi dans le domaine de la psychiatrie. Je le précise simplement au passage. Ça veut dire que Dieu se sert d'un patron au sale caractère, Pierre 2:18, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux de caractère, mais à ceux, le texte grec dit littéralement, qui ont une scoliose du caractère. Si vous savez ce que c'est que la scoliose, cette déformation très gênante de la colonne vertébrale, le terme est parfois traduit dans les Écritures par perversité. Sauvez-vous de cette génération perverse, dira l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, dans le grand discours d'acte 2. Et le mot perverse, c'est encore le mot scoliose, avoir un caractère tordu. Alors, nous devons accepter donc que Dieu se serve d'un patron qui a une scoliose de caractère pour nous former. Dieu se sert d'un voisin de chambre impossible. Dieu se sert d'un croyant rétrograde, charnel. Et il y a des rétrogrades, des croyants charnels dans toutes les églises. Dieu se sert d'un croyant rétrograde et charnel, de frères et sœurs difficiles à vivre. Vous connaissez des frères et sœurs difficiles à vivre? Peut-être que Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu sais, ça c'est toi. Dieu se sert d'un conjoint non converti. J'ai été responsable d'une église locale pendant 10 ans. Nous avions un grand nombre de couples qui n'étaient pas unis dans la foi. Que de souffrances. Que de larmes parfois. Eh bien, Dieu se sert d'un conjoint non converti. J'ai ici un très vieux texte qui date de peut-être 3 siècles à peu près. Et voilà ce que l'auteur écrit. Mon conjoint se conduit de pire en pire. J'attendais le miel et voici le dard, de l'abeille ou de la guêpe. Oui, il est triste de voir unis la vie et la mort. Cependant, ne laissez pas le mécontentement agiter votre cœur. Affligez-vous des péchés de l'homme, mais ne murmurez pas contre Dieu. C'est lui qui l'a placé auprès de vous. Vous ne pouvez pas laisser entrer le mécontentement sans vous quereller avec Dieu lui-même. Quoi ? Mettrions-nous sa sagesse en question à cause de chaque épreuve qui nous touche ? Oh, le blasphème de notre cœur ! Dieu peut vous bénir au travers du péché de ce conjoint. Peut-être n'auriez-vous pas acquis autant de bonté s'il n'avait été aussi mauvais. Le feu brûle avec plus de chaleur au milieu du froid. Par un mystérieux échange, Dieu transforme souvent les péchés d'autrui en notre bien et fait de leur maladie notre médicament. Plus le mari est profane et terrestre, plus la femme grandit dans la sainteté vers le céleste. Dieu donne parfois au péché du mari de servir d'aiguillon à la grâce de sa femme. Les excès de l'un servent de soufflet pour attiser la flamme du zèle et de la dévotion de l'autre. N'en est-il pas ainsi dans l'expérience? La méchanceté de votre conjoint ne vous pousse-t-elle pas à la prière? Vous n'auriez peut-être pas prié beaucoup s'il n'avait pas autant péché. L'œuvre de la mort en lui développe la vie en vous, et la dureté de son cœur de pierre est le marteau qui brise le vôtre. L'apôtre Paul dit: « La femme non-croyante est sanctifiée par le mari » en Corinthiens 7, 14. Mais dans ce sens, l'époux croyant aussi est sanctifié par son conjoint non-croyant. Il grandit dans la grâce, car le péché de l'autre lui sert de pierre à aiguiser et de médicament. C'est une grande leçon dans nos vies que celle qui consiste à reconnaître la manière dont Dieu traite ce que la maréchale Bousse appelait l'hippopotame moi. Cette grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Comment Dieu traite-t-il nos illusions, notre confiance en nous-mêmes? Comment Dieu travaille-t-il afin que notre règne disparaisse et que son règne vienne dans nos vies? Comment Dieu s'y prend-il pour nous crucifier, puisque nous sommes incapables de le faire nous-mêmes? Quelqu'un disait à juste titre que nous avons à louer Dieu pour tous les frères marteaux et toutes les sœurs clous qu'il met sur notre chemin, n'est-ce pas? Un homme de Dieu du passé écrit ceci: « Ne regarde pas comme un fardeau ceux qui exercent ta patience. Regarde-les plutôt comme une pierre à aiguiser, destinée à te polir, ou comme un marteau dont le maître a besoin pour donner au fer la forme voulue. Va à la forge et demande à celui qui frappe sur l'enclume comment il sait où il doit frapper avec le gros marteau. Et il te répondra toujours à l'endroit où vient d'abord de frapper le petit marteau du maître forgeron. » Comment Dieu a-t-il formé Jacob? Jacob, le docteur en mathématiques de tromperie, n'est-ce pas? Le calculateur, trompeur, rusé, fourbe. Comment est-ce qu'il l'a formé? Bien simplement en l'envoyant passer 20 ans en stage chez un maître qui n'avait pas un doctorat dans ce domaine, mais il en avait 3 ou 4. Chez son oncle Laban. Et Laban était champion du monde de son époque dans le domaine du calcul. Qu'est-ce qu'il était doué pour le manipuler, n'est-ce pas, pour l'exploiter? Et il le lui a dit. Mais chaque fois que Jacob était tenté de se plaindre dans cette école de formation, Dieu lui disait simplement à peu près ceci: mais Jacob, quand tu regardes Laban, c'est toi que tu regardes. Quand tu souffres par Laban, eh bien, souviens-toi de la manière dont tu as fait souffrir ton frère, dont tu as fait souffrir ton père. Et c'est comme cela que finalement, Jacob, un jour, s'est effondré dans la nuit du guet de Jabok, en donnant son véritable nom: « Je suis Jacob ». je suis le trompeur, je suis le rusé, je suis le fourbe. Il s'était contemplé pendant 20 ans dans un miroir que Dieu avait mis sur sa route pour le former. Alors là où nous ne voyons que Satan, que des situations difficiles à fuir que coûte, n'y aurait-il pas la main de Dieu à l'œuvre? Je ne veux pas dire que nous devons à tout prix rechercher ces situations. David n'a pas cherché ces situations. C'était ainsi. Il a essayé d'échapper à la mort. Et Dieu l'a délivré souverainement, de manière extraordinaire, souvent in extremis. Alors je ne veux pas dire que nous devions être des sortes de masochistes, n'est-ce pas, qui courent après la souffrance pour être formés. Laissons l'avenir. Dieu est assez grand pour l'installer dans nos vies, dans nos circonstances, sans que nous courions après. C'est ce que dit la première épître de Pierre. Surtout, arrangez-vous pour ne pas vivre des souffrances occasionnées par votre péché. Et si vous connaissez celle-ci, alors humiliez-vous. De manière à ce que le Seigneur puisse vous accompagner avec son pardon et vivre avec vous, en portant avec vous les conséquences du péché, les souffrances qui sont les conséquences du péché. Mais ne courons pas simplement après ces situations, laissons Dieu organiser nos circonstances, mais simplement reconnaissons la main de Dieu dans nos circonstances, quelles qu'elles soient. Je pense au juste regard de Joseph, cet homme de Dieu remarquable, sur 12 années pénibles aussi, entre l'âge de 18 ans à peu près, de 30 ans, rejeté par ses frères, esclave, calomnié, emprisonné injustement, oublié dans sa prison pendant 2 ans. Et puis ce texte si beau dans Genèse 45, n'est-ce pas? Genèse 45, versets 4 à 9. Genèse 45, versets 4 à 9. Alors que Joseph est âgé de 39 ans, hein, la manière dont Dieu calcule le temps n'est pas la même que nous. Regardez, déjà au verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Satan m'a envoyé devant vous. Que Dieu m'a envoyé devant vous. » Dieu ? Pourtant, quand on lit le début de l'histoire de Joseph, on est écœuré, n'est-ce pas, par l'attitude des frères. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant. Vous voyez cette insistance à nouveau, parce que c'est quelque chose que nous avons de la peine à accepter dans notre vie. Parce que nous sommes tentés de nous révolter. Parce que nous sommes tentés de faire place nette, d'écarter ces situations difficiles à tout près, de les mettre uniquement sur le compte du diable et de voir le diable partout. Alors Dieu insiste, n'est-ce pas? Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous voyez, 3 fois, hein, cette insistance, 3 fois exactement la même chose. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, etc. Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toutes les... Vous voyez cette insistance? Et si vous allez dans la conclusion du livre de la Genèse, au chapitre 50, Joseph est âgé, tenez-vous bien, d'environ 56 ans. Il a mûri, hein, 56 ans. Et regardez au verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voyez comment Joseph a appris dans sa vie à refuser d'être centré sur les circonstances elles-mêmes. Nous sommes souvent un peuple qui revendique, qui se plaint des circonstances, c'est pas vrai ? La conjoncture est mauvaise, le chômage, la déchristianisation, etc., etc., n'est-ce pas ? Et nous nous centrons sur les circonstances, même en tant que disciples de Christ, et nous voyons du noir. Ou bien alors nous voyons le diable partout. Le diable est derrière tous ces événements tellement négatifs. Et puis quand nous commençons à vraiment réfléchir au contenu des Écritures, réfléchir à cet enseignement essentiel que nous voyons ce soir, alors nous devenons théocentriques, c'est-à-dire que nous commençons à mettre Dieu au cœur de toutes nos circonstances, quelles qu'elles soient. Et nos lamentations peuvent enfin commencer à se transformer en louanges. Nous pouvons commencer à dire, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce collègue de travail qui est si difficile à vivre. Je te remercie pour ces situations où parfois tout va te traverser dur, Seigneur. Tu n'as jamais promis que ce serait facile. Mais je te bénis parce que cette situation, tu la contrôles. Ces circonstances, tu les contrôles. Aussi difficiles soient-elles, ces circonstances, tu les contrôles. Et tu peux utiliser ces circonstances apparemment si négatives et les transformer en bien. Quelqu'un a écrit ceci. C'est un livre remarquable publié ici au Québec. Être plus que vainqueur signifie que la victoire que nous remporterons sera telle que le feu du combat nous sera bénéfique et contribuera à notre propre cause et à celle de notre maître. Il est possible, dans un certain sens, de faire de nos ennemis des prisonniers et de les amener à combattre dans nos rangs, ou du moins de leur faire exécuter les gros travaux du camp. De la même façon, il est possible de retirer tant de bonnes choses des attaques de Satan qu'il peut, en fait, bien malgré lui, devenir notre allié. Ensuite, à son regret éternel, il découvrira qu'il nous a bel et bien rendu de réels services. Et c'est extraordinaire de penser que Saül, l'ennemi le plus acharné de David, en réalité, dans le plan de Dieu, a été l'allié de David. Il ne se rendait pas compte, au moment où il s'attaquait avec une telle méchanceté à David, qu'il lui rendait service. Que c'était de cette manière que Dieu était en train de former ce roi qui a tant marqué l'histoire d'Israël et qui annonçait de manière aussi remarquable la venue de Jésus-Christ au milieu des hommes. Et vous me direz, oui, mais est-ce que tout ça, c'est pas l'Ancien Testament ? Alors allons prendre un dernier exemple dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Vous connaissez ce texte, ce témoignage très sobre, humble, d'une expérience sublime qui devrait nous servir de modèle pour nos témoignages personnels. Que de précautions l'apôtre Paul prend pour exprimer l'inexprimable. Et après avoir évoqué en termes très sobres cette révélation toute particulière, ce ravissement dans le troisième ciel. Paul ajoute au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Dieu pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » C'est ça? Décidément, nous n'avons pas la même Bible. Un ange de... Ça ne vous a jamais frappé? Un ange de Satan? C'est dans le Nouveau Testament. Comment l'apôtre Paul a été souffleté, et pas une fois, mais c'est sur le temps, hein, par un ange de Satan. Au point même que certains commentateurs évangéliques ont eu le culot, l'audace, de voir derrière ce phénomène l'entrée d'un démon dans la vie de Saül, ce qui est extrêmement grave parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que ce texte dit. Et vous avez même un excellent livre évangélique sur les questions de puissance démoniaque qui est à bien des égards très équilibré, mais qui dans ce domaine pêche. Parce que l'explication qu'il donne, c'est qu'un démon s'est introduit dans la vie de l'apôtre Paul. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir un démon qui entre dans la vie d'une personne pour la souffleter. Si quelqu'un me donne une claque, ça ne veut pas dire qu'il s'est installé dans l'intérieur de ma vie. Il peut être à l'extérieur et me rosser, n'est-ce pas? Et il est évident qu'ici, cet ange de Satan de l'extérieur fait pression, agit avec l'autorisation de Dieu, de manière à ce que Paul ne s'enorgueillisse pas. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il se peut qu'il y ait dans nos vies, ou plus particulièrement dans la vie de certains d'entre nous, pour toutes sortes de raisons que Dieu connaît, qu'il y ait l'action d'un ange de Satan qui soufflette. Parce que c'est la seule manière de pouvoir nous maintenir dans l'humilité, dans la dépendance de Dieu. Et là où nous sommes tentés de dire, comme l'apôtre Paul, « Seigneur, je t'en supplie, éloigne, éloigne », Dieu nous dit, mais non, c'est ta sauvegarde. C'est ainsi que je te protège, c'est ainsi que je te fais grandir, c'est ainsi que je peux t'utiliser, c'est ainsi que tu peux être fécond. Alors apprends-moi, apprends de ma part à me louer, à me rendre grâce dans cette situation. Et ça devait être difficile pour Paul. On le voit à travers d'autres épîtres. C'était une situation douloureuse. C'était un handicap, on n'est pas certain. On a toutes sortes de théories sur ce handicap, mais le handicap était là, n'est-ce pas? Mais Paul a appris à voir derrière ces situations difficiles, et parfois je dirais jusqu'à un certain point révoltantes même, Paul a appris à voir la main de Dieu. Quelqu'un a dit que Dieu se sert de Satan comme une ménagère se sert d'un chiffon, pour faire briller un beau meuble. Et je crois qu'il y a là une grande vérité. Je cite encore cet auteur remarquable. Les deux choses dont le chrétien a le plus besoin, c'est la puissance de croire et la puissance de souffrir. Et c'est notre ennemi qui peut nous enseigner ces deux choses. Bien souvent, ce n'est que lorsque nous sommes sur le point de craquer sous le poids de la pression que nous apprenons le secret de la victoire. Pour enseigner à ses enfants le maniement des armes spirituelles divines, le Seigneur permet au diable de jouer au sergent instructeur dans son armée céleste et de soumettre ses enfants à un entraînement intensif. Voilà pourquoi vous devriez regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, être plus que vainqueur, c'est recevoir les leçons de l'ennemi qui vont vous rendre capable de faire face aux prochains assauts. Nous pourrons alors les affronter sans craindre la défaite. Il y a cependant des choses qu'on ne peut pas apprendre facilement. Il semble que nos sens spirituels aient besoin de la tension des difficultés, des souffrances pour réveiller toutes leurs capacités et pour nous obliger à tester toutes les ressources de la grâce céleste. L'école de la foi de notre Dieu est toujours une mise à l'épreuve et son école d'amour passe par des provocations et des injustices. Quelle remise en question pour nos vies. Et peut-être simplement quelle invitation ce soir à venir à lui pour lui dire: Seigneur, je te demande pardon pour mes révoltes. Je te demande pardon pour les moments où j'ai pointé vers toi un doigt accusateur. En disant: Seigneur, tu n'y comprends rien. Seigneur, tu ne m'entends pas. Seigneur, dans cette situation, tu n'interviens pas, tu restes sourd. Seigneur, comment peux-tu supporter de telles injustices? Que de révoltes dans nos vies. Que le Seigneur entend. Alors même qu'il est en train de travailler à nous rendre semblable à son Fils Jésus-Christ. Ce qui est tout de même l'objectif ultime de notre vie ici-bas. L'objectif ultime, c'est que sur terre se promène, partout, sous toutes les latitudes, sous tous les cieux, que ce soit sur le continent nord-américain, sur le continent asiatique, sur le continent européen ou ailleurs, Dieu veut voir des mini-Jésus-Christ se promener, transformés à la ressemblance de son Fils. Et Dieu sait que cette transformation passe par des écoles de souffrance marquées d'injustice, de choses incompréhensibles, de mystères que nous ne comprendrons jamais ici-bas. Je ne comprendrai jamais tout ici-bas dans ce domaine. Dans bien des domaines liés à la souffrance, je m'incline. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est juste, c'est que Dieu est un bon pédagogue, c'est que Dieu sait mesurer la difficulté des circonstances, c'est que Dieu est fidèle. Et c'est que Dieu poursuit inlassablement cette œuvre de transformation une fois que nous nous donnons à lui. Et cela doit vraiment m'aider à avoir une attitude différente vis-à-vis des circonstances quelles qu'elles soient. Je vous laisse ce si beau texte. Écoutez-le. Mon enfant, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Laisse-moi te le murmurer à l'oreille, pour qu'il puisse auréoler de gloire tout nuage de tempête venant à s'élever et à planir les lieux rocailleux où tu devras peut-être marcher. Il est court ce message, 5 mots seulement, mais laisse-le s'enfoncer au tréfonds de ton âme. Utilise-le comme un oreiller où reposer ta tête lasse. Cette chose vient de moi. As-tu déjà pensé à ceci? Tout ce qui te concerne me concerne aussi, car celui qui te touche, touche la prunelle de mon œil. Tu as du prix à mes yeux, c'est pourquoi je prends un plaisir spécial à te former. Je voudrais que tu apprennes, quand les tentations t'assaillent et que l'ennemi vient comme un fleuve, que cette chose vient de moi, que ta faiblesse a besoin de ma force, et que ta sécurité consiste à me laisser combattre pour toi. Te trouves-tu dans des circonstances difficiles, entouré de gens qui ne te comprennent pas,
qui ne s'enquiert jamais de tes goûts, qui te met à l'arrière-plan. Cette chose vient de moi. Je suis le Dieu des circonstances. Tu n'es pas arrivé là par accident. C'est là même que Dieu voulait te voir. N'as-tu pas demandé à devenir humble? Alors, vois, je t'ai placé à l'école où cette leçon est enseignée. Ton entourage et tes compagnons ne font qu'accomplir ma volonté. As-tu des problèmes d'argent? T'est-il difficile de joindre les deux bouts? Cette chose vient de moi, car je suis celui qui tient les cordons de ta bourse, et je voudrais te voir puiser en moi et dépendre de moi. Ma richesse est sans limite. Je voudrais que tu mettes à l'épreuve mes promesses, qu'il ne soit pas dit de toi, dans cette circonstance, tu n'as pas eu confiance en l'Éternel ton Dieu. Traverses-tu une nuit de chagrin? Cette chose vient de moi. Je suis l'homme de douleur et habitué à la souffrance. J'ai permis que les réconforts terrestres te fassent défaut, pour qu'en te tournant vers moi, tu puisses obtenir une consolation éternelle. Désires-tu accomplir une grande œuvre pour moi? Au lieu de quoi tu t'es trouvé cloué à un lit de souffrance et de faiblesse? Cette chose vient de moi. Je ne pouvais attirer ton attention quand tu étais tellement occupé. Et je veux t'apprendre quelques-unes de mes leçons les plus profondes. Ils me servent aussi ceux qui attendent patiemment. Certains de mes plus grands ouvriers sont ceux qui sont exclus du service actif pour apprendre à manier l'arme de la prière. En ce jour, je place dans ta main ce pot d'huile sainte. Fais-en librement usage, mon enfant. Que toute circonstance survenant, tout mot qui te blesse, toute interruption qui te rendrait impatient, toute révélation de ta faiblesse en soi loin, la douleur passera à mesure que tu apprendras à me voir en toute chose. La douleur passera au fur et à mesure que tu apprendras à me voir en toute chose. Nous voulons prier. Seigneur, nous venons simplement te dire ce soir que ce que nous avons vu ensemble est une leçon que nous avons de la peine à apprendre. Nous voulons bien être le grain de blé, mais nous n'aimons pas être portés en terre. Nous n'aimons pas connaître la mort. D'où pourtant jaillit la vie et la fécondité. Seigneur, viens à notre secours pour que nous apprenions à accepter d'être formés à l'école des circonstances difficiles. Merci parce que tu les choisis souverainement. Merci parce qu'elles ne viennent jamais au hasard. Même si elles sont incompréhensibles, même si elles nous semblent parfois cruelles, terriblement injustes, révoltantes. Merci pour tout ce que nous apprenons par elles lorsque nous les regardons avec tes yeux. Seigneur, visite-nous les uns et les autres. Tu connais nos situations à chacun. Tu connais les circonstances de nos vies de famille, de nos vies personnelles, dans notre santé, des luttes cachées que nous pouvons avoir. Tu n'ignores rien, Seigneur, des circonstances de notre métier, de nos collègues de travail, de notre patron. Tu connais aussi notre environnement, là où nous habitons, nos voisins de palier, ceux qui habitent le pavillon d'à côté. Seigneur, tout cela ne t'est pas inconnu. Merci pour tout ce que nous apprenons dans ces situations parfois si troublantes. Nous te bénissons et te remercions ce soir pour ta parfaite souveraineté. Nous voulons la proclamer de tout notre cœur et entendre ta voix nous dire ma grâce te suffit. Nous voulons apprendre à nous réjouir, comme le dit l'apôtre Jacques, dans nos situations d'épreuve, te remerciant parce que tu fais une œuvre pour nous conduire à maturité et à une vraie transformation à la ressemblance du Seigneur Jésus. Grave tout cela par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos mémoires. Rappelle-le-nous, ô notre Dieu, chaque fois que nous sommes tentés de l'oublier. Merci Seigneur de nous apprendre à voir derrière le profil hideux de la puissance des ténèbres se dresser le visage glorieux et beau de notre Dieu à l'œuvre dans nos vies. Accompagne-nous dans notre retour, aide-nous à prolonger ce que nous avons partagé ce soir dans le secret de nos demeures, dans notre repos de cette nuit. Merci de continuer ton œuvre en chacun de nous. Nous t'en bénissons. Dans le nom du Seigneur Jésus.